Vous écoutez
RMC. Les Paris RMC, midi 13h.
Georges Quirino.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans les Paris RMC. Vous le savez, c'est votre rendez-vous des parieurs et des parieuses tous les week-ends de midi à 13h. La Coupe du Monde est terminée. Il y a eu beaucoup de paris évidemment sur cette compétition. Mais là, on va se concentrer sur d'autres événements qui vont alimenter notre feuilleton sportif de l'été. Je vous rappelle toujours que jouer avec excès comporte des risques et que évidemment, toujours garder en tête que l'on joue ce que l'on peut jouer. On va s'intéresser aujourd'hui à quoi ? À l'étape Rennes, rien que ça. L'avant-dernière étape du Tour de France, partie à 11h30 du Bourdoisan jusqu'à l'Alpe d'Huez avec 5450 mètres de dénivelé. On va aller sur la route du Tour dans un instant et se poser cette question: qui va gagner, qui peut terminer sur le podium? On a évidemment des espoirs avec nos Français parce que pour l'instant on est fanny. On n'a pas eu de victoire d'étape tricolore sur cette grande boucle. Ce n'est arrivé que deux fois dans l'histoire, 1926 et 1999. On espère que les cotes sont avec les Français. Également, on va parler de Formule 1 aussi parce que c'est le dernier Grand Prix ce week-end avant la trêve estivale d'un mois. Ça se passe sur le circuit du Hungaroring en Hongrie. On sera avec Jean-Luc Roy dans un instant. Qualification à suivre aujourd'hui à 16h, Grand Prix demain à 15h. Et puis il y a du tennis avec des tournois ATP 250 avec des Français qui performent bien, qui sont même invités à les finales. Enfin, ils sont pas invités, ils sont allés chercher leur route tout seuls, les amis. Évidemment, on va en parler tout à l'heure avec la Dream Team, les Paris RMC, le casting.
Les Paris RMC.
Il y a une belle tête de vainqueur.
On a laissé se reposer Christophe Payet, qui n'a pas passé un combo jackpot de l'année, pour voir si Johan Guillet peut faire mieux. Bonjour Johan.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Toujours important pour mettre en confiance
ceux
qui arrivent de ne pas mettre en valeur le prédécesseur.
Exactement. C'est la délation, parfois, c'est le meilleur moyen de mettre les autres en confiance.
Dans les paris RMC, de toute façon, il n'y a pas de bienveillance.
Bien évidemment.
Enfin, y a ceux
qui, ça convient.
Il y a ceux qui disent qu'ils sont bienveillants et qu'ils sont dans l'humilité, mais attention, il faut savoir connaître les hommes. Bonjour Pascal Duprat.
Georges, salut Johan, bonjour à Lyon.
Salut Pascal.
Ça va Pascal? Salut Lionel Charbonnier, évidemment, salut Lio.
Salut les copains, salut à toutes et à tous.
La Coupe du Monde de foot est terminée, hein, les amis. Hein. Mais
oui.
Bah oui, je vous assure.
Qui c'est qui a gagné?
La France.
Ouais, c'est bon, c'est la France, trois étoiles et tout.
Avec l'équipe qu'ils avaient, ça m'étonne pas.
On revient des Champs-Élysées avec Johan. Finalement, Deschamps reste. Non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et on attend évidemment mardi l'intronisation de Zinedine Zidane. Conférence de presse à 11h mardi à suivre sur AMC, évidemment. Il y aura une journée spéciale. Hein, vous ne raterez rien autour de Flora Moussi, notamment, et toute l'équipe de l'After. Allez, les amis, la Coupe du Monde, eh oui, c'est terminé. Mais l'affiche, c'est la grande étape du Tour de France aujourd'hui.
RMC Tour de France,
l'étape du jour.
Et il a à nouveau gravi l'Alpe d'Huez pour le deuxième jour consécutif. Il n'a jamais été aussi peu fatigué en montant l'Alpe d'Huez. C'est Jérôme Coppel de la Dream Team qui est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut à tous. Jamais été aussi peu fatigué, je suis pas sûr.
Hein. Ah ouais,
3 semaines avec Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux et Jérôme Pinault. Je crois qu'en finissant le tour sur le vélo, j'étais moins fatigué que là.
Non mais attends, et tiens d'ailleurs, t'es le seul autour de la table à avoir monté l'Alpe d'Huez. C'est comment de monter l'Alpe d'Huez quand on est coureur?
C'est fantastique, hein. On a vu les images d'hier avec la foule, le public, mais bon, la foule t'aide mais te donne pas moins mal aux jambes, malheureusement. c'est très très dur. Non, moi j'ai eu la chance en plus de le faire en 2013 quand on avait la double ascension de l'Alpe d'Huez. On descendait le col de Sarenne que les coureurs vont monter aujourd'hui. Ouais, c'était incroyable de passer. Alors personnellement, je suis pas du tout fan de cette montée de l'Alpe d'Huez. Oui, elle est mythique avec ses 21 virages, etc. Mais c'est plus l'ambiance qui rend cette montée incroyable.
C'est vrai que vous, à l'époque, vous aviez fait en plus deux fois les 21 lacets. Donc, c'était 42 lacets. Alors que là, aujourd'hui, on va arriver par l'autre versant. Hein. On va arriver par Sarenne, dans la station Isère-Ouest.
J'ai une question pour Jérôme.
Vas-y, Elio.
Parce que quand je vous vois, Jérôme, comme ça, là, vous avez la foule à 2 mètres du vélo. Mais comment vous faites? Qu'est-ce qui vous guide pour savoir quand est-ce que vous devez tourner? Quand est-ce que vous allez tout droit? Comment vous faites?
Comment
c'est
tu
quoi,
vois la route?
Les pointillés?
Eh ben, alors il y a les pointillés, mais des fois la route, on l'a vu hier, tu passes sur une voie, en fait t'es un peu à l'aveugle, hein. Alors c'est pour ça que les motos dans l'Alpe d'Huez, des fois on râle un peu sur les motos, mais c'est pour ça que les motos sont aussi si proches, c'est pour nous ouvrir le chemin et pouvoir voir où on peut aller. Mais des fois on sort et on sait pas trop où on doit aller. Ça c'est vraiment, en fait, ce qui est très dur dans l'Alpe d'Huez, c'est que c'est la seule montée du Tour de France où t'es autant stressé par le public que par tes jambes. Et d'un coup, dès que t'arrives dans un... De quoi ?
Des cailloux, des cailloux.
T'as vu les cailloux des fois sur les côtés, j'imagine.
C'est du VTT.
Des fois, tu dois pas prendre ton virage, ton machin.
Non, mais.
Il y a tellement de monde.
Ouais, il y a tellement de monde, mais par contre, t'arrives après dans des endroits où c'est barriéré, et d'un coup, t'as l'impression de respirer, tu peux enfin te reconcentrer uniquement sur ton effort, alors qu'avant, tu dois faire attention à pas toucher un téléphone, une stress, canette de bière, un mec qui te tend une pancarte, donc, et d'ailleurs, tous les coureurs, même Paul Sexas hier, a dit, j'ai encore des acouphènes, j'avais vraiment peur qu'il se passe quelque chose, ça a un peu marqué tous les coureurs hier, il y avait énormément de monde.
Et je peux dire, quand t'es sur la moto RMC, également, tu vois le public s'ouvrir devant toi, c'est toujours un peu, c'est beau, effrayant parce que tu vois pas trop la route. Alors aujourd'hui 20e étape, donc avant-dernière entre le Bourdoisan et l'Alpe d'Huez. C'est parti depuis 11h30 pour le départ réel. C'est 170 km à parcourir, 5450 mètres de dénivelé en passant par la Croix de Fer. On est actuellement le Télégraphe, le Galibier, Sarène, l'Alpe d'Huez. Il n'y a que des cols mythiques. On va avoir Yoann dans un instant les côtes, mais comme je le disais, c'est parti depuis un petit moment, donc c'est important pour les comprendre l'évolution des côtes aussi de savoir où on en est dans la course. Et dans la course, c'est la moto RMC avec Maria Zé. Rebonjour Maria.
Rebonjour Georges, salut tout le monde.
Dans l'ascension de la Croix de Fer, la première difficulté de la journée, Maria, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la course pour l'instant?
Eh bien, pour l'instant, ça tente de partir. Hein. Depuis ce matin, on a vu multiples attaques. Hein. Beaucoup de coureurs ont tenté d'attaquer à l'image de Juan Ayuso, de Matteo Jorgensen. L'échappée a mis un peu de temps à se mettre en place. Ça a un peu désorganisé tout le peloton. Il y a des coureurs à peu près partout. Évidemment, des coureurs lâchés parce que c'est parti fort dès le début de cette étape. Notamment le maillot vert, Mats Pedersen, qui n'a pas réussi à suivre comme hier. Évidemment, ça va être difficile pour lui d'aller chercher les points pour le maillot vert aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il est acté. Le maillot vert pour Mats Pedersen. On a donc un petit groupe qui s'est formé, un groupe de 15 coureurs avec notamment les deux frères pétards, comme les appellent Christophe Cessieux, Richard Carapaz et Valentin Paré-Peintre, qui vont chercher les points pour le maillot à poids. Évidemment, maillot à poids sur les épaules de l'équatorien Richard Carapaz. Et derrière, le peloton maillot jaune, le groupe maillot jaune est emmené par Adam Yates, le coéquipier de Tadej Pogacar, qui semble avoir retrouvé un petit peu de forme hein, après ces petits soucis maladie de ces derniers jour, le peloton qui est évidemment emmené par les UAE de Tadej Pogacar, qui espère une nouvelle s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, ils ont environ une quinzaine de secondes d'avance, ce groupe de 15 coureurs sur le groupe maillot jaune.
Merci Maria, évidemment on fait appel à toi s'il se passe la moindre chose, hein. Il reste 12 km avant le passage au sommet de la Croix de Fer et 149 km encore à parcourir. On va voir si les frères pétards vont encore allumer une mèche aujourd'hui. Yoann Guillet, tiens, bon, on a les premières conditions de course, c'était important. Qu'est-ce que disent les cotes sur cette avant-dernière étape du Tour?
Bah forcément, les deux favoris sont les deux que nous attendions, Richard Carapaz et Tadej Pogacar. Les deux sont à 2,75. On monte tout de suite à 7,50 pour Sepp Kuss. Isaac Del Toro est à 12. Juan Ayuso est à 15. Même cote pour Remco Evenepoel. Si on descend un petit peu et qu'on cherche un petit peu des cotes pour nos Français, on a Lenny Martinez et Paul Sexas. Les deux sont à 50.
Ah oui, 50 quand même. Mm-hmm. C'est impressionnant comme cote. Jérôme, avant de t'écouter, j'imagine que notre Dream Team va avoir des questions à te poser. Pascal Duprat, alors on va se poser la question, qui va gagner cette étape? Toi, qui est-ce que tu as envie de mettre et proposer à Jérôme peut-être?
Bah en fait, tout dépend de Pogacar, mais je pense que si Pogacar le veut, comme on l'a vu lors de la deuxième étape, je mise sur Del Toro. Del Toro, bien aidé par son leader, parce qu'il va pas tout gagner quand même, ça serait presque, comment dire, indécent. Donc je vois bien Del Toro l'emporter.
On rappelle Del Toro qui est troisième du général avec 24 secondes d'avance sur Paul Sexas et qui porte le maillot blanc ce matin. La cote de Del Toro, tu la rappelles, Johan?
La cote de Del Toro est à 12.
Est à 12, il a déjà gagné à Barcelone au sommet à Montjuïc. Jérôme Coppel, t'en penses quoi, Del Toro?
Oui, c'est complètement possible, surtout vu le scénario de la course. Maria l'a dit, il y en a 15 à l'avant. Le problème, c'est qu'on a un certain Juan Ayuso à l'avant. Alors, il a coincé hier, mais là, il est parti à l'avant. Ça va changer complètement la physionomie de l'étape. Je pense que Tadej Pogacar, au départ, n'avait pas forcément coché cette étape. Hein. L'objectif, c'est vraiment de mettre Del Toro sur le podium, de le maintenir sur le podium. Avec Ayuso à l'avant, il risque d'avoir certaines équipes, notamment l'équipe de Paul Sexas, Decathlon, CMA, CGM, voire celle de Remco Evenepoel, qui à un moment donné vont peut-être aller rouler. Donc si l'écart est pas très très haut au pied du col de Sarène, bah je suis assez d'accord avec Pascal, entre Tadej Pogacar et Del Toro, c'est là qu'il faut aller piocher, je pense.
Ayuso qui a pris un éclat hier hein, sur la montée de l'Alpe d'Huez, il est désormais 7e à 15 minutes 58 au général. Bah là il fait tapis exactement, sinon son tour sera raté. Lionel Charbonnier, qu'est-ce que tu as envie de voir? Tu as envie de voir un Français toi peut-être? Tu veux miser sur un Français?
J'aimerais bien, mais j'ai l'impression quand même que Del Toro plus son équipier de luxe Pogacar pourrait faire mal à Sexas, parce que je pense pas qu'un Martinez ait son billet de sortie maintenant qui s'est rapproché au général comme il l'a eu hier. Je pense qu'il a laissé passer sa chance. En tout cas, ça n'engage que moi. Hein. Mmh. Mais voilà. Et puis Paré Peintre, je pense pas qu'il aille au bout, qu'il soit capable. Donc j'aimerais bien Sexas, mais pour moi Del Toro est plus fort avec son copain, donc je rejoins Pascal. Mais après un Kuss, je pense qu'un Kuss serait capable de gagner cette étape, non?
Un Sepp Kuss qui a terminé hier, il était dans le groupe avec Carapaz et Lenny Martinez, hein, quatrième. Jérôme Coppel, tu crois une nouvelle tentative de Kuss?
Bien sûr, moi c'était mon favori d'hier soir à la fin de l'after tour, mais j'imaginais une échappée qui allait vraiment prendre énormément d'avance et où Sepp Kuss allait pouvoir, un peu à l'image d'hier, alors en courant un petit peu mieux, mais avoir plus ou moins suffisamment d'avance au pied de sa reine pour gérer son effort. Attention, aujourd'hui c'est pas du tout la même course qu'hier, hein. L'étape est beaucoup plus dure, beaucoup plus longue, donc ça correspond encore mieux à Kuss. Hier il était avec des coureurs qui mettaient beaucoup d'à-coups, lui il déteste ça. Mais oui, si l'échappée arrive à se développer, Kuss, ça peut être un client à l'avant, tout comme Carapaz, voire Valentin Paré-Peintre.
La cote de Sepp Kuss,
7,50,
la cote de Sepp Kuss, un coureur de l'équipe Visma Lisobike qui évidemment n'a plus son leader Jonas Vingegaard depuis quelques jours, et du coup on a des coureurs qui jouent un peu leur chance. Bon, Jérôme, toi qu'est-ce que tu veux conseiller aux parieurs, peut-être comme vainqueur d'étape? Tu as écouté les cotes tout à l'heure.
Ouais, j'en sais rien. Moi, j'ai envie que ça soit quelqu'un de l'avant, quelqu'un dans l'échappée. Donc déjà, je vais pas miser sur Valentin Paré-Peintre parce que je suis comme Gégé Pineau, je suis un peu un chat noir, donc j'aimerais qu'il gagne, mais je vais pas miser sur lui. Et vu ce qu'on a vu hier, je vais rester sur ce que j'avais dit hier soir, Sepp Kuss.
Ah ouais, donc
maintenant,
tu suis Lionel,
là, il y a que 35.
En fait. T'es dans la roue de Lionel.
Ouais, exactement. Ouais. Je suis Lionel, exactement.
Non, c'est moi qui suis dans sa roue. Hein.
J'aimerais bien. Vu comment la course est en train de se développer, la victoire pour le moment est dans le groupe maillot jaune, et à ce petit jeu là je vois pas comment la victoire pourrait échapper à Tadej Pogacar s'il a envie d'aller la gagner. Après, s'il fait le jeu d'équipe de Del Toro, ça pourrait profiter peut-être à Remco Evenepoel s'il est bien, de la même manière qu'au plateau de Solaison.
On peut se poser la question aussi qui va terminer sur le podium. On a des cotes à donner peut-être à nos parieurs et parieuses, Johan, pour les guider.
Au niveau du podium, alors attends que j'arrive à le retrouver, c'est bon, je l'ai. On peut bien s'amuser, hein, parce qu'au niveau du podium, Carapaz et Pogacar sont à 1,75. Donc là, même pour ces coureurs-là, la cote est plutôt élevée pour un podium. On est ensuite à 2,25 pour Sepp Kuss, 2,50 pour Del Toro, pour Evenepoel, 3,50 pour Sexas, même cote pour Tobias Johannessen. On quadruple la mise pour Ayuso, Warren Smine, Richitello, lui, est à 6, Pidcock également, Skelmose à 7. Il y a de quoi s'amuser là, par contre, au niveau des...
Podium, 3,50 pour Sexas, Jérôme Coppel. C'est vrai que là, s'il veut aller chercher le podium, il doit tenter quelque chose aujourd'hui. C'est un coup à conseiller, 3,50 Sexas sur le podium.
Oui, ça c'est un très bon coup à conseiller aujourd'hui. Alors, je suis pas dans les jambes de Paul Sexas, mais c'est vraiment une étape qui lui convient bien. Lui, les enchaînements de cols comme ça, de très très longs cols, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Et comme tu l'as dit, Georges, il va devoir, je pense qu'il va forcément tenter quelque chose pour essayer de monter sur le podium. Son équipe, on l'a vu hier, est très très fort. Donc, je pense qu'il a les moyens aujourd'hui de faire podium de l'étape et de faire un bon rapproché, peut-être même podium du général. Il va tenter quelque chose. Ouais, c'est une belle cote à jouer, ça.
Et dans le même style de cote, d'ailleurs, on a qui sera maillot blanc à l'issue de l'étape. On sait que la troisième place se joue entre Del Toro et Sexas, mais aussi le maillot blanc entre les deux coureurs. Et justement, Del Toro est largement favori à 1,25.
24 secondes d'avance, on rappelle.
Mais Sexas est également à 3,25 pour qui sera maillot blanc à l'issue de l'étape. Ça aussi, ça peut être une belle cote. Forcément que ça se passe sur le podium, du coup.
Ouais, bon, on a bien compris que Pascal, il croyait pas trop, parce que Pascal voit Del Toro. Pascal, il est battu depuis la première semaine du tour. Il a eu l'AE à Barcelone déjà.
Voilà. Ça fait 19 étapes. J'espère, et ça fait 19 étapes qui se passent toujours la même chose, c'est-à-dire quand le boss décide, l'étape se décante.
Toi, tu vois pas trop dans la raquette, en fait.
Ouais. Non, je le vois second aujourd'hui, donc de Del Toro, je vois Evenepoel troisième. Ah ouais. Désolé, Eric. Ouais. Je pense que le classement va être, appliquer ce soir, cette étape.
Je vais essayer de redonner de l'espoir un petit peu à Pascal, parce qu'on est à 147 km de l'arrivée. Tadej Pogacar et Del Toro ont plus que deux coéquipiers, Adam Yates et Groschartner. Oh. Donc pour contrôler une échappée comme ça avec des costauds, où on voit que certaines équipes ont mis des équipiers à l'avant, notamment la Visma Lease Bike pour Kuss et Bruno Armirail qui roule, pour contrôler une étape comme ça à 146 km de l'arrivée avec que deux coureurs, sachant qu'Adam Yates revient un peu de l'enfer, il a failli être hors délai, il y a deux étapes, hier ça allait mieux, aujourd'hui ça a l'air d'aller,
mais très vite il va s'écarter.
Jérôme, il va
trouver des partenaires dans les autres équipes, celles qui sont pas représentées.
C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pour ça qu'Ayuso à l'avant, c'est lui qui nous embête. S'il n'y avait pas Ayuso à l'avant, il n'y aurait peut-être pas eu de coéquipiers d'autres équipes pour venir aider Tadej Pogacar. Et ça aurait pu changer un petit peu pour la victoire d'étape.
Ayuso, il nous embête tout le temps, celui-ci. même quand il est devant maintenant, il va embêter Paul Sexas. Jérôme, effectivement, t'en as fait les Tours de France. Peut-être pour nos parieurs et parieuses, pour qu'ils aient une idée sur ce qui est plus ou moins risqué à jouer. On est en fin de troisième semaine. Étape de 5450 mètres de dénivelé, avec des passages par des sommets fous. On est sur un tour ultra rapide. Les organismes sont fatigués. À quel point il peut se passer tout et n'importe quoi sur une étape comme ça? Tu vois ce que je veux dire? En fin de tour.
Oui. Alors après, on a quand même rarement des surprises en troisième semaine, à tous les échelons d'ailleurs, que ça soit les échappés, tu retrouves toujours les mêmes à l'avant depuis trois jours, Carapaz, Benili, Arensman.
Ceux qui sont en forme vont rester en forme en fait.
Voilà, ceux qui sont en forme restent en forme et sont dans les échappés, et dans le groupe des favoris, c'est la même chose, tu vas retrouver toujours les mêmes. Maintenant, il y en a qui vont peut-être coincer un petit peu, mais en fait ça dépendra du moment où, dans les dernières difficultés, la vraie bataille va se déclencher. Parce que là, on peut vraiment perdre une minute trente, par exemple, si ça commence à déclencher d'assez loin. Mais on n'aura pas de grosses surprises, à part Ayuso qui fait all-in et qui peut-être va terminer à 10 ou 15 minutes à l'arrivée si l'échappée ne va pas au bout. Après, dans les favoris, même si Paul Sexas veut prendre des risques et remonter à la troisième place, il ne va pas attaquer dans le galibier à 60 km de l'arrivée. Il attendra le col de Sarène et peut-être même la fin du col de Sarène. Donc, il n'y aura pas de grosses surprises, je pense, aujourd'hui. Après, il y a un facteur qui pourrait jouer sur certains coureurs, c'est l'altitude. On est à très haute altitude toute l'étape, on frôle les 2000 mètres, on les dépasse en haut d'école.
Remco, à plus de 2000 mètres, c'est un peu plus difficile.
C'est un peu à lui que je pense. Le col de Galibier à 2600 mètres au sommet, on sait que c'est l'enchaînement de cols et l'altitude qui, des fois, lui pose des problèmes. Mais j'étais le premier à dire ça il y a quelques jours, mais il a quand même l'air très bien. Remco Evenepoel, ça n'a pas l'air d'être le même que ces dernières années. Et pas uniquement que pour Remco Evenepoel. Paul Sexas, il découvre aussi la troisième semaine, grosse étape de montagne en fin de troisième semaine à haute altitude. Normalement, on sait qu'il répond bien à l'altitude, mais on ne sait pas en fin de troisième semaine d'un grand tour.
Lionel Charbonnier, toi qui as fait des stages à Tignes pour préparer la Coupe du Monde, tu le tenais bien l'altitude?
j'allais moins vite. Mais par contre, même en voiture, j'ai du mal à le faire, pour te dire. Mais j'avais une petite question, Jérôme. Moi, j'ai plein de questions. Je suis emmerdant, mais Del Toro aujourd'hui, par rapport à Sexas, le tracé, tout ça, c'est avantage. Ça serait avantage Sexas, quand même.
Oui. Le profil avantage Sexas. Alors attention, Del Toro, il a failli gagner le Tour d'Italie l'année dernière. Oui. Si stratégiquement ils font pas d'erreur, ça veut quand même dire qu'ils passent les étapes avec beaucoup de cols, ils passent l'altitude. Au Giro, t'es souvent aussi à haute altitude. Mais normalement, Paul Sexas sur les cols très longs, comme ça, on a des cols de 24 km, 17 km, 12 km. Normalement, c'est avantage Paul Sexas. Mais Del Toro, n'oublions pas, même s'il est très jeune, il a quand même 3 ans de plus que Paul Sexas. Il a déjà fait deux grands tours avant, dont le Giro qu'il a failli gagner. Un peu plus d'expérience que notre Français. Sur le papier, ça correspond mieux à Paul Sexas, mais on ne sait pas vraiment comment il termine son premier tour.
Mais ça voudrait dire que Sexas pourrait dormir, pourrait coller la roue de Del Toro et lui en coller une dans le dernier kilomètre, les deux derniers kilomètres, essayer de lui mettre 30 secondes.
Est-ce qu'il peut se retrouver dans la roue de Del Toro, ou est-ce qu'ils ne vont pas rester dans sa roue, les UAE? C'est ça le truc, en fait.
Bah alors eux ils vont pas être, c'est pas Del Toro qui va être, alors sauf s'il y a le feu pour Tadej Pogacar, mais sinon c'est pas Del Toro qui va être proactif. Donc oui, Lionel, Paul Sexas va rester dans la roue de Del Toro, mais faudrait pas qu'on assiste au même scénario qu'au plateau de Solaison, c'est-à-dire Tadej Pogacar qui fait un tempo juste trop fort pour Paul Sexas, qui garde dans sa roue Kjør Remco Evenepoel et Del Toro. Bah si c'est ça, à la limite on n'a pas de regret. Del Toro était plus fort que Paul Sexas, point, il sera maillot blanc, il sera sur la troisième marche du podium, et ce sera déjà magnifique pour Paul Sexas de terminer quatrième. Par contre, si Del Toro est un tout petit peu moins bien aujourd'hui, bah Paul Sexas doit rester dans sa roue, et soit dans le final du col de Sarène ou vraiment dans la fin de l'Alpe d'Huez quand ils vont reprendre la route classique, bah là essayer de lui mettre vraiment une bonne attaque pour essayer de reprendre un peu de seconde. Et comme moi j'ai misé tout à l'heure sur le fait qu'il pouvait faire troisième, il y a aussi des bonifications à la troisième
bien
place.
Sûr,
voilà, essayer de renverser le podium.
Parce qu'il n'y a que 24 secondes entre les deux. Johan, juste des cotes importantes.
On parlait de la possibilité, en tout cas tu en parlais Jérôme, de la possibilité d'Ayuso d'aller au bout. On rappelle que sa cote est à 15, c'est quand même une très belle cote. Mine de rien, on parlait du face-à-face Del Toro-Sexas. Bah, notre partenaire nous propose justement un duel Del Toro contre Sexas qui finira devant l'autre au cours de cette étape. Del Toro est à 1,40, Sexas est à 2,40.
Intéressant. Ah, Lionel, il aime bien ça, effectivement. Ça va les faire réfléchir.
Sexas devant, moi.
Sexas devant.
En colline à la fin.
Allez, bataille des supporters, enfin des fans de vélo. On accueille Rémi qui nous appelle de Lyon et Vincent de Gironde. Salut Vincent, salut Rémi.
Bonjour les gars, salut Vincent.
Et Vincent, tu appelles de Gironde, ça me permet d'envoyer un message évidemment de soutien à tous ceux qui luttent contre les incendies actuellement en Gironde et dans les Landes, bien sûr. Tiens, on vous écoute les gars, vous savez comment ça se passe, c'est 30 secondes pour essayer de convaincre la Dream Team. Vous proposez votre pari et après on va déterminer qui a été le plus convaincant. Rémi, on commence par toi.
Allez, ça marche. Bah, moi, du coup, je vais être Richard Carapaz dans la juin 2024, excellent du coup en troisième semaine, malgré le fait qu'il répète des efforts. Il est en forme. C'est une étape parfaite pour lui. C'est pas l'arrivée du coup, le vrai peu du S. Du coup, c'est parfait pour lui de faire top puncher. On l'a vu que du coup, avec ce qu'il y a devant, pour moi, ça va aller au bout du coup. Même si il roule, ça va vite dans la vallée, du coup, ça va vite se relever. Et malgré que j'aimerais que Johansson gagne, ce sera du coup Carapaz en prono et va gagner du coup. Après hier.
Carapaz qui arrive finalement à gagner l'Alpe d'Huez, qui n'a pas réussi hier en terminant 3ème. Johan Lacote.
Côté à 3,
on rappelle Carapaz. Vincent, on t'écoute.
Alors moi je vais dire une grosse surprise, un coureur étonnant, Tadej Pogacar.
Mais non, gagner, non,
malheureusement.
Non,
t'es un fou, parce que ils vont mettre à rouler dans la plaine, ils vont se mettre à rouler, c'est une étape super dure. Et même à 80% de ses capacités, il est au-dessus de tout le monde. Et alors je dis malheureusement, je ne suis pas convaincu. Mais il est tellement au-dessus, c'est une étape tellement dure où il va y avoir quand même des coups de bambou, parce que 5000 mètres de nivelé, c'est pas pour tout le monde, donc malheureusement il est plus solide que tout le monde et à 80% il va être devant.
Pogacar pour le back-to-back à l'Alpe d'Huez, la cote
2,25.
Qui vous a le plus convaincu, Rémi qui dit Carapaz ou Vincent qui dit Pogacar? Pascal.
Vincent Pogacar,
Lionel.
Ouais, Carapaz, j'y crois pas. Pogacar,
Johan.
Ouais, malheureusement, Pogacar.
Pogacar, Jérôme Coppel.
Eh ben moi je vais aller avec Rémi parce que j'ai envie de voir Carapaz gagner à l'Alpe d'Huez avec son maillot à pois.
Eh ben écoute, on va voir si l'un des deux frères pétard, comme l'a dit tout à l'heure Maria Azé, va réussir à s'imposer. Vincent, je te félicite, c'est toi qui repars avec 20€ sur le site de notre partenaire. Merci d'avoir été beaucoup avec nous. Rémi, tu repars pas les mains vides, tu repars avec 10€ et peut-être la victoire de Ricardo Carapaz tout à l'heure. On verra au sommet de l'Alpe d'Huez. Évidemment, restez à l'écoute de l'intégral tour les gars, ce sera à partir de 14h avec Christophe Cessieux et toute l'équipe autour de lui, dont Jérôme Coppel. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme.
Merci les gars.
Tu nous as bien éclairé. On aurait pu te poser 70 questions. Bravo. Mais le problème, c'est que ça s'appelle l'intégral tour et c'est tout à l'heure. Allez, on revient dans un instant. Les paris RMC, on va aller en Hongrie pour la Formule 1. A tout de suite.
Les paris RMC, midi 13h.
Georges Quirino.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les paris RMC, on est avec Yoann Guillet, Lionel Charbonnier, Pascal Duprat. Dans un instant, on va retourner sur la route du Tour. Hein. Il reste 2,6 km avant le passage au sommet de la Croix de Fer, à 139 km de l'arrivée. On retrouvera Maria Azé sur la moto. Mais d'abord, on va parler Formule 1, puisqu'il y a le Grand Prix de Hongrie ce week-end. Avant la trêve estivale d'un mois, qualification à 16h à vivre sur RMC avec la voix de la F1 sur notre antenne. C'est Jean-Luc Roy qui nous rejoint. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Georges, bonjour Lionel, bonjour Pascal, salut Yoann.
Salut Jean-Luc. Évidemment, on a hâte de vivre cette qualif sur le circuit du Hungaroring. On rappelle que c'était Piastri qui s'était imposé l'année dernière sur ce tracé. Que disent les cotes pour la qualif? La qualif à suivre tout à l'heure, que disent les cotes pour la pole position notamment?
Écoute, c'est un duel de Ferrari hein, pour la pole position. 2,75 la cote de Lewis Hamilton, 2,75 également celle de Charles Leclerc. Derrière, on a Kimi Antonelli qui est à 4 et on est à 8 pour Lando Norris.
Kimi Antonelli qui, on rappelle, est le leader du championnat avec 45 points d'avance sur Hamilton et qui s'est imposé à 6 reprises sur les 10 premiers Grands Prix de la saison. Les Ferrari ont bien marché en essai libre, je crois, mon cher Jean-Luc, c'est pour ça qu'elles sont aussi positivement annoncées par les cotes.
Absolument, Georges, puisque pour la FP1, la première séance d'essai libre, c'était Leclerc devant Verstappen et Hamilton, et pour la deuxième, eh bien Hamilton avait été le plus rapide devant Charles Leclerc, Lando Norris et Verstappen. Et puis tu le rappelais, donc c'est Charles Leclerc qui avait signé la pole l'an dernier, donc puisque nous parlons des qualifs, en revanche, c'est bien Norris qui s'était imposé devant Piastri.
Norris, oui, pardon.
Mais c'est logique que les Ferrari, d'ailleurs, sont considérés comme des favorites, même si les pilotes veulent pas le dire. Fred Vasseur ne veut pas le dire, mais tu sais, c'est le jeu habituel. Et puis, c'est vrai que les écarts de temps sont tellement réduits cette année, par rapport aux meilleurs, hein, c'est souvent quelques centièmes de seconde, que il suffit d'une toute petite erreur quelque part. Et tu sais, le tourniquet hongrois, j'aime bien les surnoms, dans le chaudron de Budapest, voilà, tu auras tout. Comme ça, après le toboggan des Ardennes, ben écoute, c'est 4,381 km. Donc, moi, je parie sur une des deux Ferrari. Je parierais sur celle de Charles Leclerc parce que je le sens plutôt bien. Le body language parle. Alors, je sais que c'est pas une très bonne cote, mais Antonelli va revenir hein, parce que il a pas participé à la première séance d'essai libre parce qu'il avait un jeune pilote. Tu sais, les équipes sont obligées de faire rouler des rookies hein, lors de quatre premières séances d'essai. C'était le cas, donc il a concédé un petit peu de retard, c'est la raison pour laquelle il se trouve un petit peu loin pour le moment en FP2, mais c'est pas significatif. Il va revenir dans le coup, de là décrocher la pole, ça va être difficile.
Donc plutôt Leclerc, on rappelle la cote de Leclerc pour la pole.
2,75
pour celui qui s'est imposé à Silverstone hein, cette année, Charles Leclerc. Je viens parce que quand on écoute Jean-Luc Roy, vous avez vu les amis, c'est la Formule 1, c'est un parc d'attraction, hein. Il y a un tourniquet, il y a des toboggans, il y a vraiment un parc d'attraction à Suzuka, il faut le rappeler, au Japon, à côté de à côté du tracé. Pascal, Lionel, vous l'écoutez. Jean-Luc, Pascal, c'est quoi? T'as envie d'aller sur Ferrari aussi? C'est peut-être le cœur qui veut parler.
En fait, j'aimerais aller sur Ferrari, mais Jean-Luc m'a rassuré parce que je fais d'Antonelli mon favori pour la pole parce qu'il a pas couru les premiers essais, comme il l'a bien dit, et parce que on l'attend plus, mais il est toujours là. Donc, je pense que c'est son année et je pense qu'il va damer aussi le pion pendant ses essais au Ferrari, qui marche bien, certes, mais Antonelli, il va du feu de Dieu, quoi qu'on en dise, avec sa bagnole.
La cote d'Antonelli, on rappelle.
À 4, elle est belle.
À 4. Lionel, t'as envie d'aller sur quoi, toi, plutôt, sur cette qualif aujourd'hui?
Ferrari.
Alors,
je sais pas si
est-ce que c'est parce que ta compagnie est italienne et que tu peux pas dire autre chose ou...
Non, mais parce que je pense que sur le tourniquet hongrois, je pense que les Ferrari vont être bien. Et par contre, je sais pas si on peut parier sur deux Ferrari sur les trois premières places.
Non, là, on ne peut pas. C'est que les vainqueurs.
Ah oui, mais toi, du coup, tu les vois vraiment très performantes.
Moi, je verrais plutôt Hamilton.
Ah, 2,75 également.
Ah ben, en plus, attends, c'est pas un mauvais choix. Hein. Il a 9 pôles, hein. 8 victoires et 9 pôles. Ouais.
Hamilton complètement retrouvé là, tu le sens peut-être capable avant la
trêve. Il est de mieux en mieux.
Ouais, Jean-Luc, c'est à nouveau le prédateur désormais dans cette Ferrari qui marche mieux.
Alors bien sûr. Alors c'est vrai que on a du mal à s'en rappeler, mais toutes les pôles ont été monopolisées par les pilotes Mercedes depuis le début de la saison.
Exactement.
6 pour Antonelli, dont les deux dernières consécutivement, et 4 pour Russell. Alors c'est vrai qu'il faut se replonger dans l'année 2025, et c'est là qu'on découvre que la dernière pôle c'était Verstappen à Yas Marina. Avant il y avait Piastri au Qatar, et puis avant c'était Norris. Enfin tu vois, faut remonter vraiment loin. Et Charles Leclerc, dernière pôle, tenez-vous bien, c'est à Budapest il y a un an, donc ça tombe plutôt pas mal.
Non, mais c'est pour ça, non, mais ça donne aussi des indications sur effectivement la qualité des Mercedes sur cet exercice chronométré. On n'a pas parlé de français, Hadjar qui va un petit peu mieux, la cote d'Hadjar, évidemment pole position, ça semble très compliqué. Non, mais la Red Bull marche mieux aussi, et puis Isaac Hadjar est régulièrement dans le top 6 désormais, Jean-Luc. On en parlera dans le point à course demain.
Alors, j'allais demander la cote de Verstappen, parce qu'on ne peut jamais
à 12.
Écarter.
Faut pas l'occulter.
Bah voilà, oui. À 12.
Alors ça, c'est tentant, hein, parce que le diable, le bougre, le monstre, il est capable de tout. Et effectivement, il est capable de signer, bien évidemment, une pole. Il a déjà fait, d'ailleurs. Hein. Alors, je suis en train de vérifier. Là, il faut remonter un petit peu, mais c'est évident que il l'a emporté en 2022 et 2023. Voilà, c'est ça. Et les pôles, c'était un petit peu avant. Mais c'est évident que Verstappen ne peut jamais être écarté. Alors, il faut que la monoplace progresse un petit peu. Mais comme je l'ai dit, les écarts sont tellement de quelques centièmes de seconde parfois que dans un tour de folie, on sait que depuis le début du week-end, il fait évoluer sa monoplace chaque jour un peu plus. Il n'est pas écarté totalement. Alors, ce serait une surprise. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il en manquera un petit peu.
Mais il ne faut jamais l'écarter.
C'est jouable.
Ouais, il ne faut jamais l'écarter. Le bougre, le monstre. Verstappen, voilà. À combien tu rappelles, Johan ?
Il est à 12.
Il est à 12. À 16h, la qualif, Jean-Luc Avir avec toi, évidemment, sur RMC. On sera là sur le tourniquet hongrois pour suivre les pilotes et on en parlera demain.
Je sais que ça te plaît, ça.
Pour la grille, effectivement, on aura la grille, on pourra parier sur le Grand Prix, bien sûr, le dernier avant la trêve estivale. Merci, Jean-Luc. Évidemment, je sais que tu vas rester à l'écoute de RMC parce qu'on va aller tout de suite sur la route du tour. Maria Azé à 136 km de l'arrivée. Maria sur la moto RMC. On vient de passer la première difficulté, la croix de fer, Maria.
Oui, exactement. Je vais essayer de vous faire un point alors que je suis en pleine descente du col de la Croix de Fer. Ça va être gymnastique. Vous allez tourner à environ 135 km de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et il y a un peu de course, Georges, dans cette 20e étape du Tour de France. Il y a d'abord la course pour le maillot à poids, évidemment. On a vu l'attaque de Richard Carapaz il y a quelques instants dans le col de la Croix de Fer. Richard Carapaz qui va aller prendre les points pour le maillot à poids devant Valentin Paré-Pinte qui n'a pas réussi à suivre cette attaque de l'Équatorien. Derrière, il y a une autre course aussi pour le maillot vert. Max Pedersen qui a également attaqué, qui est sorti du groupe maillot jaune, qui va essayer de faire cette grosse descente pour récupérer une minute sur le groupe de tête et aller chercher les points du sprint intermédiaire et ramener ce maillot vert définitivement à Paris. Et ensuite, dans le groupe maillot jaune, évidemment, on a la bataille pour le classement général avec une attaque Décathlon CMA CGM il y a quelques instants. Les hommes de Paul Sexas qui doivent être à l'offensive aujourd'hui si le Français veut monter sur le podium de ce Tour de France et récupérer le maillot blanc de meilleur jeune. Ouais. Alors un petit point grossier un peu sur les écarts, on va dire, hein, mais le groupe de tête de 12-15 coureurs quand ils auront récupéré Carapaz et Valentin Paré-Pinte à 2 minutes 20 d'avance sur le groupe maillot jaune, Georges.
C'est pas du tout un écart grossier, c'est exactement ça, Maria Azé, et bravo parce qu'on sait que c'est effectivement très compliqué dans la descente de la côte du col de la Croix de Fer. Derrière Jean-Marc, eh bien de faire ce point parfait. Et le Décathlon CMA CGM dont tu parlais, Maria, c'est Tige Benoît, hein, qui est parti en poursuivant derrière la tête de course pour l'instant occupée par Richard Carapaz. Il reste de gros morceaux, hein, Télégraphe, le Galibier, Sarenne et l'Alpe d'Huez. 134 km encore à parcourir, intégral tour dès 14h. Johan, il y a du tennis également aujourd'hui. On voulait donner deux petites cotes parce qu'il y en a des Français qui sont là quand même, hein, aujourd'hui.
Exactement, et j'aimerais notamment vous parler de cette finale à Kitzbühel qui va avoir lieu dans quelques minutes. Ça devrait commencer dans les alentours.
C'est bien du tennis, hein, c'est pas du ski,
exactement,
hein.
Bien sûr. Ouais. C'est Bublik qui affronte Quentin Alice avec des cotes déséquilibrées largement à la faveur du Kazakh qui est à 1,42. Le Français, lui, est à 2,85. Mais bon, ce sont des retrouvailles entre les deux joueurs. Ils se sont affrontés la semaine dernière. C'était lors du tournoi de Gstaad et c'est le Français qui s'était imposé en trois manches. Depuis fin février, bah, mine de rien, Bublik vit une année plutôt difficile. 16 victoires pour 14 défaites lors de ses 30 derniers duels. Le bilan était donc négatif avant ce tournoi de Kitzbühel. On est donc pas sur ses performances et sa régularité de 2025, on en est même assez loin. Néanmoins, il n'a pas perdu le moindre set dans ce tournoi, que ce soit contre Dias Acosta, Molchan ou enfin Echeverry en demi-finale. Et en face, Alice fait un travail monstrueux. Lui non plus n'a pas concédé une manche en 4 duels et il a fait mentir les cotes lors de chaque tour contre Djere, contre Vacherot, contre Navonet et enfin contre Hanfmann. Il aime ses tournois en altitude, ses premières balles sont monstrueuses. Elles avaient déjà bien embêté Bublik à Gstaad. Le Kazakh n'avait pas réussi à lui piquer le moindre jeu de service. Évidemment, il y a une grosse différence entre un huitième et une finale. Je vois les deux joueurs se rendre coup pour coup. Sans donner de vainqueur, d'ailleurs, j'ai envie de vous proposer tout simplement un match en 3-7. Ça vous permet de doubler la mise. Et je vois bien une troisième manche entre ces deux joueurs pour le coup aujourd'hui.
Eh ben écoute, là pour le coup, tu nous l'as bien étudié celui-là. Un pan dans votre tête, Christophe Payet, qui à chaque fois nous donne les infos tennis et que vous suivez. Hein, toujours, si là vous ne le suivez pas, Johan, alors que c'était parfaitement précis. Tiens, juste rapidement, la cote que tu veux nous proposer peut-être sur Van Hache Gaston, également aujourd'hui
ouais,
à Estoril.
À Estoril, exactement. C'est un duel 100% français en demi-finale. Bah, mine de rien, ce sont deux joueurs en forme, ce sont deux joueurs qui ont performé dans des challengers sur ocre. Et bah, là aussi, j'ai envie de vous proposer tout simplement un match en 3-7. Et là, c'est coté à 2-10.
Et ben voilà, vous les avez les deux cotes. Vous suivez, vous faites confiance à Johan, les amis, pour le tennis.
Ah ouais.
Ouais, bah là, franchement, c'est difficile hein, d'aller contre ces arguments. Effectivement, on a hâte de voir nos Français aujourd'hui. Ce sera à suivre évidemment sur RMC en début d'après-midi, en fin d'après-midi également. Allez, on revient dans un instant pour les paris RMC. Tiens, Tige Benoît qui était parti en éclaireur, la coéquipier de Paul Sexas, il y a un petit problème mécanique dans la descente. Il a été repris par le groupe des favoris. Il reste 32 km à parcourir. Richard Carapaz en tête pour l'instant avec son maillot à poids, a passé au sommet de la Croix de Fer. On revient dans un instant sur RMC, à tout de suite.
Les paris RMC, midi 13h.
Georges Quirino.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Avec Pascal Duprat, Lionel Charbonnier et Johan Guillet, on va voir s'il va nous proposer un meilleur combo jackpot que Christophe.
Les paris RMC,
le combo jackpot.
Et bah là, de combo jackpot de Johan.
Bah écoute, on va s'amuser. On n'a pas énormément de choses, mais du coup, on va essayer quand même de se faire plaisir. Et mine de rien, la cote est plutôt pas mal. Je te propose Hamilton déjà, qui fait pole position aujourd'hui pour le Grand Prix de Hongrie.
2,75. Ce sera à suivre à 16h. Je rappelle sur RMC.
On la joue un petit peu chauvin. Sexas, qui finit sur le podium de cette 20e étape du Tour de France.
Conseillé par Jérôme Coppel tout à l'heure. En plus. À 3,25.
Ensuite, on continue avec le tennis. Alice qui bat Bublik en finale en 3 manches, bien évidemment.
Côté à 5.
Et enfin, Van Hache qui bat Gaston en demi-finale à Estoril et là aussi en 3-7.
C'est coté à 3,50. La cote totale, c'est quoi? Je mise 10 euros, je peux gagner combien, Johan?
Eh bah écoute, on est sur une cote à 156 à peu près, donc tu as plus de 1560 hors booster, donc tu frôles les 2000, je pense, avec le booster.
Ok, bon, euros. Les gars, qu'est-ce que vous suivez? Il est pas mal, hein, ce combo jackpot là. Peut-être que ça va
pas
passer.
Hein.
Ouais, Pascal.
Pas aussi dingue que Christophe, mais dingo quand même, donc, mais je vais prendre.
Tu prends? Tu pas d'erreur, toi, tu le prends dans son entièreté.
Bah en fait, je vais me contredire tout à l'heure, mais je le prends quand même, parce que bah, c'est une dinguerie, donc je la prends, Johan.
Léo. Merci.
Bah, je prends Hamilton, c'est que ça se prend. Mm-hmm. Par contre, Alice Bublik, je vois Bublik gagner, moi. Ouais. Et ouais, une erreur, allez.
Une erreur en tennis, on peut se le permettre. On peut se permettre une petite erreur. C'est vrai qu'il est aussi dur habituellement, hein, encore plus avec Christophe. Donc là, il a été plutôt sympa, Léo, pour celui-là, pour ce combo de jackpot. On vérifiera demain. Par contre, je te rien, si tu le passes, c'est Samba et tout ça.
Non, hein, merci. Ça serait exceptionnel. Musique, ah, j'ai hâte de revenir dans ce cas-là.
Il reste exilé sur l'île d'Elbe, parce qu'apparemment, il est exilé sur l'île d'Elbe. Il y reste, si jamais tu passes.
Allez, tout de suite.
Moi, il m'en avait envoyé un qui était une vraie dinguerie, mais je peux te la. Il m'avait donné Sexas, pas Bublik. Ouais. D'un centième et sera devant Hamilton.
Ah oui,
ça
d'accord.
Passe pas, ça.
Ouais, mais ça dépend parce que si. Ouais, mais
ça dépend. C'est une vraie dinguerie.
Ça passe, mais derrière, tu te réveilles, quoi. C'est le problème.
Ça dépend, si, ça dépend si Gaston fait la pole tout à l'heure. Allez, tout de suite, ouais, le grand gagnant.
Les paris RMC.
Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine.
Notre grand gagnant, c'est Simon. Salut, Simon.
Oui, bonjour.
Et félicitations, Simon. Tu as misé 10 euros, un ticket avec une cote totale à 200. Tu as gagné 2000 euros. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce ticket, Johan?
Ah bah, le ticket, il est assez exceptionnel. Là, je suis en train de le découvrir, tu vois. C'était un my match sur un seul match, celui pour la troisième place entre la France et l'Angleterre lors de cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé marque 2 buts ou plus. Bukayo Saka marque 2 buts ou plus. Michael Olise est auteur d'au moins une passe décisive. Et pareil pour Hébert Echiezé. Ça nous donnait une cote totale de 200, mise 10 euros. Tu as gagné 2000 euros.
Alors, attends, moi, Simon, ce qui m'intéresse, c'est comment tu le vis, ce match. Parce qu'on rappelle, il y avait 4-0 pour l'Angleterre à la mi-temps. Ça fait fini en 6-4. Comment on vit ça?
Ben, match exceptionnel. En tant que grand spectateur de football, on est plus que content, on est ravi. À la mi-temps, la moitié du pari est fait. Mmh. Et je vois forcément Kiki pour battre Messi en Coupe du Monde et finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, mettre un but ou deux. Mmh. Donc la logique, elle se base sur ça. Kiki met un doublé, il finit devant Messi à la Coupe du Monde. Sachant que Bukayo Saka, il joue en club Arsenal avec la prononciation, elle est un peu difficile, mais on va dire aisée. Je le voyais faire une passe D, et donc voilà le résumé du pari.
Moi j'aimerais savoir, surtout, qu'est-ce qui t'a conduit à voir Saka inscrire au moins un doublé? C'est quand même le joueur un petit peu décrié tout au long de la saison. Beaucoup en parlent comme le joueur surcoté par excellence. Comment tu vois, qu'est-ce qui t'a amené en fait à miser sur ce doublé?
Ben, le fait qu'il joue en club avec avec Aizé, donc tout simplement, ils ont joué toute la saison, ils ont des automatismes ensemble, donc je me dis pourquoi pas. Et je savais que ça allait être un match ouvert, c'est la petite finale. Pour régaler le public, les téléspectateurs et tout. Je savais que ça allait être un match ouvert. Donc,
bon. Je pense qu'à 6-4, on peut effectivement parler d'un match ouvert. Hein. Ouais. Je pense qu'à 4-1, on pouvait déjà dire ça. À 4-2 aussi. Bah, en tout cas, bravo Simon, ça a dû te payer ta journée d'acrobranche, tiens, de pouvoir avoir tes 2000 euros aujourd'hui. Merci Simon d'avoir été avec nous, notre grand gagnant.
Est-ce que c'est possible de passer une petite dédicace
Vas-y.
Allez, je vous prends 30 secondes, je fais une petite dédicace parce qu'en fait, on est un groupe de joueurs et de potes qui faisons des paris ensemble en commun. Mmh. Ce qui nous permet d'être un minimum rentable, on va dire. Donc déjà, je voulais remercier RMC de l'appel, ça c'est premièrement, parce que je vous écoute du Moscato Show jusque le RMC.
Ah bah merci pour ta fidélité.
Mmh. Voilà, ça c'est la première des choses. Je voulais faire une dédicace aussi, s'il vous plaît, à Roland, même s'il n'est plus là, et à notre regretté Roland Courbis, ainsi que à Didier Roustan, parce que toutes leurs analyses footballistiques, ils m'ont aidé dans mes analyses à moi-même, à la compréhension du football, etc.
Merci pour ça, voilà. Simon. Dernier petit mot, parce que je te cache pas que derrière, on est un peu pris par le timing.
D'accord, allez, et puis donc la fin, une dédicace à l'Italien.
À ce moment,
et à tous mes potos.
Allez, voilà. Ciao l'Italien. Salut, merci Simon pour tes gentiments. Je suis Rital et je le reste. Allez, merci Simon, tout de suite les bankrolls.
Les paris RMC.
Une belle tête de vainqueur.
Et toujours dans nos cœurs, évidemment, coach Courbis, on est dans son studio ici, vous le savez. Bankroll spécial de l'été, Johan, c'est ça?
C'est ça, bankroll spécial de l'été. Jusqu'à la reprise de la Ligue 1, on redémarre avec 200 euros dans nos poches.
Bon, écoute, c'est très bien ça. Bah, c'est très bien pour Lionel Charbonnier qui habituellement sans difficulté. On va te laisser commencer par une fois. Tu vois. Qu'est-ce que tu mets dans ta bankroll?
Sexas devant Del Toro, Victor de Bublik et Hamilton en pôle. C'est une bankroll à 9,37. Je joue 20 balles.
Ah oui, d'entrée de jeu comme ça. Oh là là, t'as
pas. Non, c'est pas mon pognon. Moi, je joue. Moi.
C'est virtuel, on rappelle. Allez, Pascal.
Bon, écoute, c'est pas une dinguerie, mais ça y ressemble. Del Toro, vainqueur de la 20e étape. Antonelli, pole position. Bublik qui bat Alice en 2,7. Van Natche qui bat Gaston en 2,7. La cote totale, tenez-vous bien, 216. Je mets 10 euros.
Oh, Hugo Gaston! Wow. Hugo Gaston!
Bonacci!
Bonacci, Hugo Gaston!
Gaston, il y a le téléphone qui sonne.
T'as cru qu'on était sur Radio Monte Carlo? Johan, qu'est-ce que tu vois?
Je vais me montrer plus mesuré, moi. Mine de rien, il y a quand même Sexas sur le podium de cette 20e étape à 3,25. Je mise également sur les trois manches entre Bublik et Alice et enfin entre Bonacci et Gaston. Je mise 10 euros.
Et moi, je vais faire très simple dans ma bankroll. Je vais juste mettre 20 euros sur la victoire d'Isaac Del Toro, qui est coté à 10.
Oh là là, j'ai fait le tour de la planète.
À la
avec les accents.
C'est ça, on a jamais visé juste. C'est
Lio Charbonne.
Allez, merci les amis, merci Lio, merci Johan, merci Pascal.
Carbonara.
Avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.